Je suis désolé de mon retard. Mais tout a commencé jeudi en passant. Non, jeudi, je suis allé chercher ma fille à Montréal. Micah revenait de Floride pour 2 semaines avant les camps. Et pour sauver des sous, ben je l'ai fait atterrir à Montréal à minuit. Et c'est quand même un bon montant de moins, là, ça vaut la peine. Fait que là, mais faut que je me fasse l'aller-retour. Alors, je suis revenu à 4h30, 5h. Je me suis couché à 5h. J'ai dormi 2 heures à peu près. Et fait que c'est ça, j'ai comme un petit peu de fatigue accumulée. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais j'en ai. Puis ce matin, en m'en venant, j'étais comme un petit peu serré dans le temps. Je dis là, faut pas, j'arrive en retard. Puis je dis non, je vais être correct. Puis là, j'ai roulé un petit peu plus vite. Rien de dramatique, inquiétez-vous pas. Et finalement, je vois Sainte-Marie, prochaine sortie. Là, puis je me suis comme réveillé, puis j'étais passé 2 sorties. Réveillé, je ne me suis pas endormi, mais je suis comme. Je suis parti dans l'une. J'ai complètement manqué les sorties. Alors, je me suis ramassé à l'autre là, place. Là. Quoi?
Vallée-Jonction,
c'est ça. Je suis sorti à Vallée-Jonction, je suis revenu par la petite route et je suis arrivé 10 minutes en retard. Mais ça m'a montré que j'étais en contrôle ce matin, mais le Seigneur m'a montré, regarde, tu contrôles rien, mon petit gars. Et puis, c'est quand même une réalité, hein, on contrôle rien. Même si on pense avoir ce contrôle. J'ai mis le titre ce matin, Opération Rénovation. Je voulais un verset de avant de lire Pierre, Apocalypse 21:5 nous dit, « Celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et moi, j'aime ça. C'est le Seigneur qui parle. « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et on va voir dans notre texte que on peut rêver, en fait, de ce qui s'en vient. On a parlé un peu de l'éternité, un jour, être dans sa présence. Et on peut rêver un peu ce matin de ce que Dieu va faire avec les cieux et la terre. Donc, opération, rénovation. Il y a différentes positions que je vais discuter tantôt, brièvement. Mais donc, est-ce qu'il a tout détruit, il n'y avait plus rien, puis en fait une nouvelle, ou est-ce qu'il rénove l'ancienne pour en faire? Mais on va discuter de ces deux aspects-là tantôt. Pour le moment, on va lire ensemble les versets 10 à 18 de 2 Pierre 3. Donc, verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Hey, juste ce petit bout-là de verset, hein, ça fait comme du bien. « Où la justice habitera. » Il n'y aura plus rien d'injuste. Verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur, on veut prendre juste quelques moments maintenant pour discuter ensemble de ces versets, qu'est-ce que tu as à nous dire à travers cette parole qu'on a lue? Bénis ce temps, puis guide-moi, Seigneur. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, j'ai mis quelques photos de rénovation. Moi, j'aime ça regarder des vidéos sur YouTube de rénovation. Où est-ce que les gens, là, on va, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les gens vont prendre ça c'est une moto, puis c'est un vieux petit pupitre. Là, on les voit moins bien, mais ça a tout été lavé, frotté, shiné. J'aime ça, puis principalement aussi, j'aime les consoles un peu de jeux vidéo, puis les anciennes, les vintage. Les gens trouvent des vieilles consoles qu'on mettrait au vidange, des consoles de jeux, là. Et ils les déboîtent toutes, puis ils les lavent, ils les rendent presque neuves. Mais j'aime ça regarder ça. C'est comme si on redonne vie à quelque chose qu'on était sur le point de jeter. Mais c'est encore bon. Ça fonctionne encore, il faut juste rénover, remettre à neuf. Puis c'est ça que le Seigneur va faire avec la terre, les cieux et la terre. Et c'est ce qu'il a commencé déjà à faire avec nous quand on y pense. On est des nouvelles créatures. Et le Seigneur est en train de nous transformer. Il nous a pris tels qu'on était. Il nous a sauvés. On est des nouvelles créatures, mais encore pris dans notre corps de mort, comme Paul le dit. Et il est en train de nous rénover, de nous amener à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux passer à la prochaine. J'ai pas beaucoup de slides. J'ai juste quelques photos tantôt. Ça va aller à tantôt pour la suite. Merci, Mario. Donc, on va voir quatre points aujourd'hui. La destruction avant la rénovation. Ensuite, on va voir la rénovation, ensuite après la rénovation, puis ensuite on va voir que Dieu veut aussi rénover la vie, changer le cœur, sauver les âmes, les transformer. Donc, premièrement, la destruction. Parce qu'avant de rénover, avant de faire quelque chose, bien, il y a comme cette destruction qui va arriver. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On a lu, les cieux passeront avec fracas. Mais c'est quand même... J'imagine aller voir un film qui nous présente ça, ça a l'air quand même intense, là. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Tu sais, c'est quand même une image intense quand on y pense. Ça va être quelque chose. Et ça va venir comme un voleur, c'est une façon de dire que il faut être prêt, il faut veiller. On ne sait pas si ça va arriver quand exactement. Présentement, on ne le sait pas. Un jour, on va être enlevé, on va aller dans la gloire, puis on va peut-être être un peu plus au courant de ce qui va se passer quand on va être, parce qu'on sera en haut pendant la grande tribulation avant que le Seigneur revienne. Donc, mais pour l'instant, on ne sait pas quand toutes ces choses-là vont arriver. Et ce ne sera pas un jour de fête, hein? C'est la colère de Dieu qui fait que ces cieux enflammés se dissoudront. Et on ne parle pas ici directement de l'enlèvement, mais les événements finaux qui vont accompagner le jugement dernier contre les incrédules. L'enlèvement va avoir lieu avant, mais ces éléments-là, c'est pas l'enlèvement qui est question ici. Selon le livre de l'Apocalypse, c'est ce jour du Seigneur va être en deux volets. Premièrement, on a la grande tribulation avec le sixième sceau dans Apocalypse 6, 12. Hein? Puis là, vous vous rappelez quand on lit dans Apocalypse 6, les grands de ce monde vont aller dans les montagnes puis ils vont crier aux rochers, tomber sur nous, cachez-nous de la colère. Donc, c'est quelque chose qui va être intense. Merci Seigneur, je ne serai pas là. Mais il y a des gens qui vont être là, qui vont vivre ça. Donc, première étape durant la tribulation, mais aussi une autre étape après le millénium, quand Satan va être relâché. Et ensuite de ça, après, bien, c'est là que Dieu va rétablir le nouveau ciel et la nouvelle terre. Je ne sais pas si ça vous arrive de parler de la fin du monde avec des gens, mais quand on parle de la fin du monde, la majorité des gens ont des petits sourires en coin. Hein? On fait rire quand même de nous parce que ça ressemble beaucoup à de la science-fiction. tout ce qu'on lit dans la parole, la fin du monde, puis le feu, puis... Il y a plein de films sur... Moi, j'aime beaucoup les films qui ont cette thématique-là d'une fin du monde. Là. Je ne sais pas pourquoi j'aime ça, mais je sais pas. Je trouve ça drôle à voir. Ben drôle. C'est tout le temps spectaculaire, hein, ces films-là. Tout se détruit, puis... Mais ça ne reflète pas vraiment ce que la Bible nous dit. J'ai jamais vu de film sur la fin du monde qui était vraiment à côté comme les Écritures. Ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, saviez-vous qu'il y a des évolutionnistes qui sont peut-être les seuls à partager avec nous certaines idées qu'on retrouve dans la Bible? Puis je vais vous lire quelque chose que j'ai découvert. Je ne l'ai pas là, donc écoutez, mais c'est deux scientifiques, un dénommé Barrow et un Silk, ils ont écrit un livre, The Left Hand of Creation, et ils citent une personne au début, puis ensuite ils expliquent. Alors, voici. Certains disent que le monde se terminera dans le feu, certains disent dans la glace. Donc ça, c'est une citation qui font d'un dénommé Robert Frost. Donc certains disent que ça va se terminer dans le feu, d'autres dans la glace. Ces mots bien connus de Robert Frost résument encore assez fidèlement les possibilités des scientifiques qui parlent. Alors que le début semble avoir été régulier et calme, l'état final sera chaotique et violente. Toutes les galaxies, étoiles et atomes se dissoudront en noyaux et radiations. Ensuite, les noyaux seront démembrés en protons et neutrons. Ils seront à leur tour pressés jusqu'à ce que les quarks confinés en eux soient libérés en une énorme soupe cosmique de quarks et de leptons interagissant librement. On voit quand même l'idée pour les scientifiques qu'un jour, ça va se consumer tout ça. Et se dissoudront, ils ont utilisé le même mot que la parole on a vu. Alors, j'ai juste trouvé ça intéressant. C'est des athées scientifiques, mais eux autres aussi, ils disent qu'il va y avoir, à un moment donné, une fin à tout ça. Bon, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça. Mais nous, on se base sur les Écritures. Donc, avant de refaire à neuf, on démolit, puis on reconstruit. Vous savez, cette construction, cette destruction, en fait, avant la construction, elle a déjà été entamée dans le Jardin d'Éden. La destruction de notre planète, comme Dieu l'avait créée, ça a débuté dans le Jardin d'Éden. Parce que le premier coup que la création a subi de Dieu, c'est quand Adam et Ève ont désobéi. Puis on connaît par cœur le récit. Dieu avait averti Adam, les conséquences. Et Dieu, ben, il a tenu parole. Puis le péché est entré dans le monde et le péché a commencé à détruire l'homme et la terre. Et les conséquences du péché ont fait beaucoup, ont nui beaucoup à la création de Dieu. Parce que même au déluge, Dieu a jugé l'homme avec un déluge, mais le déluge a apporté énormément de changements à la terre, puis qu'aujourd'hui, on en subit encore les conséquences. Les gros tremblements de terre à cause des plaques tectoniques, mais c'est tous des résultats de avant le déluge, il n'y avait pas ça. Tout était parfait, la terre était parfaite, mais le déluge, à cause de la rébellion des hommes, de la méchanceté des hommes, bien, c'est une conséquence du péché, mais on en subit encore les conséquences. Puis là, je pourrais en parler longuement de ça. J'ai plein de points que je pourrais vous dire. Suite au déluge, qu'on vit des catastrophes, des choses et qui ont un certain lien avec ce déluge-là, à cause du péché. Alors, le péché a déjà commencé cette destruction, dans une certaine mesure, puis dans l'homme et la femme. Puis, on le voit assez, hein, dans nos cœurs. Même si on marche pour le Seigneur, puis on veut obéir, j'imagine que ça vous arrive de vous sentir comme dans Romains 7, quand Paul il dit « Je fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je veux pas. » Puis là, il comprend, puis il se rend compte que c'est la chair. Oui, on est des nouvelles créatures, mais prisonniers de notre corps qui n'est pas régénéré encore, qui n'est pas transformé, glorifié. Puis on a cette lutte constante-là. Donc, on voit déjà cette destruction que le péché a faite dans nos propres corps. Le péché est là, qui veut nous dominer, puis on se bat à chaque jour pour dire non, puis on n'y arrive pas toujours. On a tous un point où ce qu'on brise, où ce que la tentation, bien, On a un point de limite à un moment donné, il faut crier au Seigneur, mais il n'y a personne qui ne pèche jamais. C'est la réalité, puis c'est triste quand on y pense. Donc, destruction avant la rénovation, elle a commencé dans le jardin, mais Dieu va la continuer jusque dans la tribulation, puis après aussi quand Satan va être relâché. Et ensuite, on passe au début de la rénovation. Le début de la rénovation. C'est mon deuxième point. Donc, avant de rénover, bien, il faut avoir un plan. Et je me souviens, quand j'ai rénové mon sous-sol, hey, c'est compliqué les villes. Hein? J'arrive à la ville, je dis là, je veux faire ça, ça, ça. Il dit là, il faut que tu me fasses un plan. Je dis, oh, donne-moi une feuille, un papier et un crayon, moi, te faire ça. Et là, j'ai fait un plan en 4 minutes. J'ai marqué ça, j'ai une chambre là. C'était comme un dessin d'un enfant de 12 ans, peut-être. Il m'a envoyé donner ça, il me regarde, c'est comme il riait de moi, il me trouvait un peu épais. Mais c'est pas comme ça que ça marche. T'sais. Il a fallu que je retourne chez nous, puis que je mesure, puis que je donne un plan à l'échelle. C'est quoi tu veux faire exactement, combien de pieds, les fenêtres sont... Hey, écoute, je suis passé, je sais pas combien d'heures là-dessus, mais c'est ça, la réalité. On a besoin d'un plan précis, clair, puis avant même de tout créer, Dieu avait un plan. Dieu avait un plan pour nous sauver même. Il y avait un plan de création parfaite, tout en sachant qu'il allait avoir la chute. Il y avait un plan de rénovation, puis il y avait un plan de rescue pour venir nous secourir du péché. Puis c'est la première étape, je crois, dans cette rénovation-là. Dieu veut rétablir la relation brisée entre nous et lui. C'est la première chose qu'il fait avec Adam et Ève, qui se cache après le péché. Hein? Puis, t'es où? Ben, Dieu, c'est pas parce qu'il savait pas, il connaît toutes choses, mais il voulait juste que Adam se révèle, hein, je suis ici, puis qu'il vienne à lui. Donc, Dieu, déjà dans sa tête, dans sa sagesse, dans son omniscience, dans sa souveraineté, il avait ce plan-là pour la terre et pour nos vies, pour venir secourir les êtres humains qui sont déchus. Puis cette rénovation passe par le sacrifice du Seigneur Jésus. C'était le plan de toute éternité. Et c'est là le début. On commence là. On va à Christ, au pied de la croix. On est transformé, une nouvelle naissance. Donc, en quelque sorte, on est les prémices de la rénovation, de la création. Il a commencé avec nous. Il va finir avec les cieux et la terre, mais il commence avec nous. Puis il va finir avec nous avant de faire les cieux et la terre. Parce que quand Christ va revenir, c'est là qu'on va le voir, on va être transformé, on va être comme au début quand il nous a créés, comme Dieu a voulu qu'on soit. Puis il n'y aura plus de péché qui va être entre nous et Dieu. Moi, j'ai tellement hâte à ça, là. J'étais assez tanné des fois de... On a cette relation avec Dieu, mais on a toujours le péché qui nous bloque, qu'on ne peut pas pleinement juste... adorer, se lancer dans les bras de Dieu. Il y a tout le temps cet aspect-là du péché qui s'attache à nous si facilement. Un jour, ça va être parti, libéré. Moi, j'ai hâte, là. Frères et sœurs, j'y pense à chaque jour. Pas que j'ai hâte de mourir, mais j'ai hâte d'être vraiment dans cette relation parfaite avec Dieu, sans péché entre nous deux. Et un jour aussi, bien, la création va être affranchie de la corruption. Puis je vous lis un texte. Je n'avais pas besoin de tourner. Romains, vous connaissez bien, Romains 8, 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Puis moi aussi, c'est ça, c'est un ardent désir. Elle attend la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et en attendant ce jour, qu'est-ce que Pierre dit? Trois choses qu'il demande de faire. Premièrement, il dit que nous devrions vivre en nouveauté de vie. Hein, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Et ça, c'est pas une exhortation ou un commandement, c'est plus une affirmation. Ça devrait être la vie normale d'un chrétien, une conduite ou tendre à une conduite sainte et pieuse, parce que on le sait qu'on, bien qu'on le veut puis qu'on tend à ça, on y arrive pas pleinement. Mais ça devrait être normal de tendre continuellement à cette sainteté, cette piété. Vous savez, c'est vraiment absurde quand on pense l'idée de recevoir le pardon des péchés et de continuer de pécher volontairement. Mais c'est la réalité. Des fois, c'est involontaire, oui, mais des fois, c'est volontaire aussi. Puis j'avais cette image-là d'une histoire, j'ai inventé une histoire pour imaginer un peu. C'est un patron qui pogne un de ses employés à voler, mettons, sur caméra, puis finalement, bien, il fait venir l'employé dans son bureau, le voleur, puis l'employé, bien, il pense qu'il va se faire mettre dehors. J'imagine, si tu voles quelque part, ton boss, ça se peut que tu te fasses mettre à la porte. Mais le patron, il décide de faire grâce à l'employé. C'était l'ami de son fils, admettons, puis il dit, bon, je vais te faire grâce. Alors, il lui offre de lui pardonner, d'effacer sa dette, puis même il dit, garde, mon fils me dit que tu as du potentiel, puis il croit que tu es quelqu'un de bien, même si, bon, tu as volé là, mais écoute, j'efface ta dette, puis je suis même prêt à te donner une promotion comme cadre. Et lui, il s'attendait de se faire virer, mais il est gracié, puis il se fait donner une promotion, il devient un cadre dans l'entreprise. Fait que là, l'homme, il regarde le patron, puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah, super, je suis vraiment, vraiment content, mais est-ce que je vais pouvoir continuer à te voler? Qui oserait demander ça suite au pardon puis à la promotion? Comprenez-vous que ça n'a aucun sens? La personne va juste dire, hey, merci, merci, je te dois tout. Écoute, je vais être un employé modèle, je serai pas parfait parce que oui, mais je vais vraiment être un employé, puis tu regretteras pas. Tu regretteras pas. Puis je vais vouloir te faire, te plaire. Tu sais, l'employé, je veux dire, imaginez, jamais il dirait, je peux-tu continuer à te voler quand même? T'sais. Mais j'ai l'impression que c'est parfois ça qu'on fait avec Dieu. On n'ose peut-être pas demander à Dieu si on peut continuer à le voler, mais on continue à tolérer certains péchés dans nos vies. On garde certaines attitudes qu'on sait qui sont mal. On accepte de vivre dans le compromis. Alors, on accepte la grâce, mais on continue de voler Dieu en péchant volontairement. Vous savez, la première génération de chrétiens dans une tribu, la tribu, je vais la lire, parce que c'est au Niger, c'est la tribu Yorubas. J'ai trouvé ça intéressant aussi. Eux autres, quand ils ont accepté le Seigneur, c'est la première génération, ils se sont fait un dicton qui dit ceci, « Nous n'acceptons pas la foi sans qu'elle nous coûte, sans qu'elle nous ôte quelque chose. » On va redire, parce que là, je me sens enfergé un peu. « Nous n'acceptons pas la foi sans qu'elle nous ôte quelque chose. Elle enlève la sorcellerie, l'idolâtrie, l'adultère, la magie et autre chose semblable. » Autrement dit, garde, tu ne peux pas accepter la foi sans qu'il y ait d'autres choses qui sortent de ta vie. Péché. Donc, pour eux, l'appel à la sainteté puis à la séparation avec leurs anciennes manières de vivre, ce n'était pas une option. Ils ne vont pas accepter l'Évangile, puis on va continuer dans la sorcellerie. C'est non. Alors, Pierre dit à ses lecteurs, « Vous savez ce qui s'en vient. Toutes ces choses vont se dissoudre, et le Seigneur va revenir nous chercher. Votre vie devrait refléter ces vérités-là et cette espérance-là. » 2 Corinthiens 5, posez une tournée, je vais vous lire tranquillement. 2 Corinthiens 5, 14-15. Nous dit, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alors notre conduite, notre piété doivent tendre à la sainteté. Et ça ne se fait pas tout seul. Et c'est pour ça que Pierre va rajouter quelque chose. Il dit, nous devrions vivre en nouveauté de vie. Deuxième chose qu'il dit, nous devons nous appliquer à être trouvés sans tâche et irrépréhensibles. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. C'est un impératif. Appliquez-vous. Le christianisme, c'est pas comme embarquer dans un manège à la ronde, hein, parce que quand on embarque dans un manège à la ronde, on se laisse porter, puis on vit les émotions. Pas ça, le christianisme. Il y a un prix à payer. Si on veut donner le meilleur de nous au Seigneur, il y a un prix à payer, il y a des efforts à faire. Appliquez-vous. Puis moi, je suis extrêmement surpris de quand je parle avec... Bon, dans la dernière année, j'ai quelques discussions que j'ai eues en tête, des gens que spirituellement, ça va moyen. Et c'est pas la grosse thérapie que je fais, là. Je pose juste quelques questions. Bon, genre, je dis, ben, as-tu un temps encore avec le Seigneur? Non, pas vraiment. Tu lis-tu encore ta parole? Tu prends-tu le temps de te nourrir les Écritures? Oh, pas souvent. Puis l'Église, t'es-tu attaché? T'as-tu une fidélité? Oh, je me suis un peu éloigné, je suis moins là. Appliquons-nous. La personne, c'est un peu comme si elle se laissait porter par le christianisme, puis ben, j'ai dit, ta situation, là, je dis, mais n'importe quel chrétien qui font ce que tu fais, puis ils vont tout être comme toi, déprimé, puis loin du Seigneur, puis triste, puis t'es pas un extraterrestre, c'est juste normal. Appliquons-nous. Il y a quelque chose qui doit être fait, qu'on doit prendre en charge. C'est pas par religion, parce que souvent, tu sais, on dit, ben lis ta Bible, prie chaque jour. Ah, mais là, c'est de la religion. Non, c'est pas la question de faire plus de religion, mais c'est la question de chercher plus Dieu. Puis comment on le cherche? Ben c'est dans les Écritures. Ben, puis là, par la prière. Fait que c'est pas l'idée de religion, c'est de chercher la proximité, la présence de Dieu. Donc, appliquez-vous. C'est vraiment un impératif qu'on doit faire dans notre vie. Donc, on doit vivre en nouveauté de vie, on doit nous appliquer à être trouvé sans tâche et irréprochable, irrépréhensible. Troisièmement, nous devons attendre et hâter son avènement. Il nous dit ça, troisième chose à faire en attendant, bien, attendez. Et hâter son avènement. Et là, je me suis dit, bien, on peut-tu hâter vraiment ça? Hâter, c'est de le faire devancer ou... Et vous savez, ici, le jour de Dieu, parce que tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, donc on a le jour du Seigneur, le jour de Dieu, c'est-tu pareil? Mais je crois que contrairement au jour du Seigneur, qui est le jugement de Dieu, le jour de Dieu fait référence plus à l'état éternel, quand Dieu aura assujetti tous ses ennemis. On va être dans le jour de Dieu, dans l'éternité avec lui, dans sa présence, quand toute langue va confesser qu'il est le Seigneur. Tout genou va flécher quand il va faire de ses ennemis son marchepied. Autrement dit, comment je le vois, c'est comme si le jour du Seigneur va faire place pour le jour de Dieu quand on va être avec lui sur la nouvelle terre. Est-ce qu'on peut vraiment le hâter? Bien, Dieu fait ses choses, hein? Tu sais, même si on dit on veut, mais on peut prier que son règne vienne. Jésus nous a enseigné à prier que ton règne vienne. Peut-être que si tout le monde prie que ton règne vienne, on va hâter là, ce jour, son retour, je ne sais pas. On peut certainement être plus allé aussi pour évangéliser. On a entendu de l'évangélisation que vous voulez faire le 1er juin. Bien, Jésus dit que l'Évangile sera prêché dans le monde entier avant la fin. Donc, il y a une progression de l'Évangile qui doit être faite. Donc, si on est tous plus zélés pour évangéliser, peut-être qu'on peut hâter le retour puis les choses de la fin. Maintenant, on va regarder la fin de la rénovation. Donc, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, nouvelle terre, où la justice habitera. Donc, il y a deux possibilités à cette nouvelle création. Puis, écoutez, on ne fera même pas de débat, mais si Dieu réduit à néant toute la création présente, puis en crée une nouvelle à partir de rien, bien, c'est une possibilité. Donc, soit Dieu fait ça, il n'y a plus rien, puis en fait, ou soit Dieu rénove la création présente qui sera complètement détruite par le feu. Et on va lire les Écritures, puis on peut faire on peut présenter les deux, puis soutenir les deux avec des versets, autant l'un que l'autre. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous connaissez un peu, MacArthur, lui, il croit que c'est à partir de rien, tout va être détruit. Puis je ne sais pas si vous connaissez John Piper. John Piper voit plus l'idée d'une rénovation à partir de tout ce qui a été dissous, brûlé. Moi, c'est un peu plus là que je me situe, l'idée de la rénovation. Parce que c'est un peu comme nous, tu sais, quand on nous a sauvés, il ne nous a pas détruits pour nous recréer à nouveau. Notre corps va être régénéré, mais on n'est pas, on disparaît pas pour se faire recréer à partir de rien. Puis avec la création, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qu'il va faire, mais je peux me tromper. Mais dans les deux cas, ça devrait nous inspirer, nous pousser à vivre pour le Seigneur entièrement. Et je ne sais pas c'est quoi votre vision du ciel. C'est quoi qu'il y a dans le ciel? Je vous dis le ciel, vous pensez à quoi? Puis souvent, on pensait à des nuages, puis des anges, je ne sais pas. Mais on a tellement eu d'images dans l'art qu'on a on a peut-être une fausse conception de qu'est-ce que le ciel? Est-ce qu'on pense à un endroit physique ou un endroit spirituel, esprit, vapeur? J'ai entendu souvent que si le ciel est une heure d'adoration qui se termine jamais, ben ça sera pas très excitant. Les jeunes enfants qui sont au culte souvent, ils disent « Ah là, c'est ça le ciel, là, un culte qui finit pas. » J'ai pas le goût d'y aller. J'ai un jeune qui avait déjà dit ça il y a plusieurs années. Mais si notre vision n'est pas juste, ça se peut que notre motivation soit pas très grande aussi pour le ciel. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du ciel? Ben, elle nous dit qu'on a été créé avec un corps physique pour un monde physique. Alors moi, je crois que le ciel, ça ne sera pas un endroit quelque part bizarre. Le ciel, ça va être les nouveaux cieux, la nouvelle terre qu'il va créer et qu'on va vivre sur cette terre-là avec Dieu. Pierre nous dit que Dieu va rénover cette création ici pour en faire nouvelle. Donc le ciel... J'ai vraiment l'impression que ça va être la continuité ici-bas sur une terre renouvelée, que ce soit créée à partir de rien ou renouvelée celle-ci. On va être ici-bas sur terre. Dieu a fait toute la création, puis il a dit qu'elle était très bonne. Alors, j'ai de la misère de comprendre que Dieu a changé d'avis, puis oui, il y a le péché qui est venu la bousiller, mais je pense que Dieu va bousiller le péché qui a bousillé la création pour la ramener comme il a voulu au début et pas passer à un plan B. Bon, on l'enlève, on en fait une nouvelle. Mais peut-être c'est ça qu'il va faire. Je suis un petit peu partagé, mais je penche un peu sur l'idée de la rénovation. Il veut nous redonner son plan A comme il y avait comme idée de le faire dès le commencement. Mais sans le péché. Où est-ce que la justice va habiter? Clairement, cette promesse-là, on la voit partout dans les Écritures. Il y a beaucoup de versets, mais juste Ésaïe 65, 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. » On le voit dans l'Apocalypse. On le voit dans plusieurs livres de la parole. Il va y avoir nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ciel, c'est un endroit qui est temporaire, en attendant que Dieu renouvelle toute chose. Alors, c'est quoi le ciel présentement? Je ne sais pas. C'est un endroit avec Dieu, avec Christ, qui est présentement là, avec son corps. Mais éventuellement, le ciel va être sur la terre, ça va être nouveau ciel, nouvelle terre avec lui, en présence de Dieu. Puis c'est intéressant de réaliser que Dieu est toujours venu vers nous. Hein, Dieu marchait avec Adam et Ève dans le jardin. Dieu est venu avec eux. Dieu a habité dans le tabernacle, dans le désert. Il était tout le temps avec sa création. Et Dieu a envoyé son Fils unique dans notre monde. Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure chez lui. » On le sait qu'on est habité par le Saint-Esprit. Voyez-vous, encore là, Dieu vient vers nous, il nous habite par son Saint-Esprit. Donc, il y a toujours cette idée-là que Dieu vient pour habiter avec nous. Donc, l'état éternel ne sera pas un endroit spirituel, quelque part mystérieux. L'état éternel sera sur la nouvelle terre. Puis Dieu va être là, habité parmi nous. Et Apocalypse nous dit que la Jérusalem céleste va descendre, la ville. Vous avez entendu parler de la Jérusalem céleste? On va descendre sur cette nouvelle terre et ce sera l'habitation de Dieu parmi nous. On pourrait les lire, les versets. Voulez-vous qu'on lise Apocalypse 21, 2, 3? Sans tourner, je vais lire, ça va aller quelques secondes plus vite. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête, comme une épouse qui s'est séparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est quelque chose. On sait tous c'est quoi une grande ville. Hein? Nommez-moi une grande ville. Là. C'est quoi la plus grande ville? Chicago, New York, Shawinigan, je sais pas. Mais il y a des grandes, grandes villes dans le monde. Hein? C'est impressionnant même quand on va dans ces grandes villes-là. On en a vu à la télé, ou peut-être que vous en avez même visité. Mais il n'y a rien de ce qu'on a vu sur la terre qui se compare à la Nouvelle Jérusalem. À rien. Je vais vous la décrire un petit peu. Moi, ça, c'est quelque chose. On la représente comme une ville fortifiée, avec une sécurité qui est incontestable. Elle est située au sommet d'une colline. Il n'y a aucune armée qui pourrait la gravir. Il n'y aura pas d'armée qui va venir combattre, on le sait bien. Les murs de la ville sont tellement épais et tellement hauts qu'il n'y a personne qui pourrait les percer ni les escalader. Et on sait qu'il n'y aura pas d'attaque, mais j'ai l'impression que Dieu nous rappelle sa puissance et son engagement à protéger son peuple avec toute cette description-là. Les dimensions de la ville sont mesurées par un ange. 2200 km par 2200 km par 2200 km. Fais-moi des images. On va voir des images. Prochaine image. OK. Donc, ça, c'est... Voyez-vous le carré? Ça, c'est la grandeur de la ville. C'est un peu dur, peut-être, parce que là, on est en Turquie. Mais la prochaine. J'ai fait une proportion si on était ici. Bon, ça, c'est la grandeur de la ville qui touche un peu le Québec, là. Qui s'en va jusqu'à... On est toujours rendu au Mexique, en bas, un peu. Aux États-Unis, en tout cas. Quasiment en Floride. Fait que ça, c'est la grosseur. Puis si on regarde le carré, prochaine étape, qu'est-ce qu'elle aurait de l'air? C'est la planète, elle aurait de l'air grosse de même. C'est gros. C'est extrêmement gros. Est-ce qu'il y a assez de place pour tout le monde? Juste au niveau du sol, on parle de 4,84 millions de kilomètres carrés. 4,84 millions de kilomètres. En hauteur, on peut compter au moins 600 000 étages. De 12 pieds de haut. Alors, on parle de milliards de personnes qui pourront occuper la Nouvelle-Jérusalem avec plusieurs kilomètres carrés pour chaque habitant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'amphithéâtre. Il y avait un programme « J'ai ma place ». Bien, on peut aussi réserver une place dans la ville. Il y a un programme « J'ai ma place ». On peut venir au Seigneur puis être sauvé. C'est gratuit en plus. J'ai ma place, ça coûtait cher, hein, je pense. Mais ça, c'est gratuit. Alors, je résume les points qu'on a vus. On a vu la destruction avant la rénovation, le début de la rénovation, la fin avec cette ville-là. Et quatrièmement, bien, Dieu veut aussi rénover la vie de ceux qui ne lui appartiennent pas. Il veut changer, si ce n'est pas déjà fait, dans nos familles. Dieu veut faire ce changement-là dans la vie de ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Puis c'est pour ça qu'il faut continuer notre évangélisation. Verset 15, il dit, « Pierre, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. La patience du Seigneur est votre salut. » Quand on y pense, la patience du Seigneur, moi, si le Seigneur était revenu en 1994, je ne serais pas sauvé. Mais la patience, il a fait qu'en 1995, j'étais là et j'ai été sauvé. Et quand on dit « Seigneur, reviens » et on a hâte, il faut se rappeler qu'il y a des frères et sœurs qui ont des enfants qui ne sont pas encore au Seigneur puis qui vont dire « Non, 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 pas tout de suite. Je veux que mon enfant vienne au Seigneur avant. » Fait que oui, on a un désir qu'ils viennent, mais en même temps, on veut qu'ils soient encore patients parce qu'on veut que nos proches viennent au Seigneur. Alors, on doit continuer d'évangéliser. Et Pierre conclut avec les versets 17-18. « Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui sera la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, il donne deux impératifs importants. Mettez-vous sur vos gardes et croissez dans la grâce de la connaissance de Christ. Et le verbe croissez est à l'impératif présent. C'est comme si ça voulait, c'est comme s'il disait soyez continuellement en train de grandir, de croître. Soyez continuellement en train de croître. Progressez. Et je vous lis une petite citation de Worsby. J'aime bien Worsby. Il dit, comme il est facile de grandir dans la connaissance, mais pas dans la grâce. Nous connaissons tous beaucoup plus la Bible que nous la mettons en pratique réellement. La connaissance sans grâce est une arme terrible. Et la grâce sans connaissance peut être très superficielle. Mais lorsque nous combinons la grâce et la connaissance, nous avons un outil merveilleux pour construire nos vies et pour construire l'Église. Mais ici, ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Ce n'est pas les connaissances. Non, c'est la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Connaître Christ. C'était l'ambition de Paul, l'ambition numéro un de Paul. Connaître Christ, l'amour de Christ. Et le meilleur moyen d'apprendre à le connaître, c'est en passant du temps avec lui, en lisant les Écritures. Et Pierre termine sa lettre par une des plus merveilleuses louanges à Jésus-Christ, en passant, qu'on trouve dans le Nouveau Testament. À lui, par le qui? À Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Il faut comprendre que traditionnellement, la gloire appartenait à Dieu seulement. Pour les Juifs, la gloire, c'est à Dieu. Les Juifs ne croyaient pas que Jésus était Dieu fait homme. Mais Pierre dit, à lui, Jésus-Christ soit la gloire. C'est une belle manière pour Pierre de terminer sa lettre en soulignant la divinité de Christ. Juste avec ces mots-là. À lui soit la gloire. C'est à Dieu la gloire? Oui, parce que Jésus est Dieu fait homme. Alors, on doit redonner toute la gloire à Christ. Parce qu'au final, notre salut, notre persévérance, son œuvre, c'est lui qui mérite la gloire, puis c'est lui qui mène. Puis je l'ai vu ce matin encore, même quand on veut contrôler les choses de la vie, c'est lui qui est au contrôle. On termine avec la prière. Seigneur, merci pour ces versets, Père. Ça nous fait rêver de penser à cette nouvelle création parfaite, parce que déjà on est émerveillé par ce qu'on voit, mais il y a le péché qui a quand même bousillé ce qu'on voit, ce qui est là. Donc, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, sans l'aspect du péché, on va être tellement émerveillé encore plus, Seigneur. On a hâte de vivre ces moments-là. Mais en attendant, comme j'ai dit, Seigneur, on est reconnaissant de ta patience, que tu ne reviens pas tout de suite. On a tous des gens à cœur qu'on veut qu'ils connaissent l'Évangile. Donc, on veut terminer en priant pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'appartiennent pas, qui puissent faire cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, être sauvés pour avoir leur place aussi dans cette nouvelle création que tu vas faire pour nous. Donc, aide-nous d'être fidèles, Père, dans nos vies chrétiennes, de fuir le péché. Et merci encore parce que tout t'appartient, tu es en contrôle de tout. Et à toi soit la gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen.